Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous écoutons Abdoulaye Batili, conseiller spécial du secrétaire général pour Madagascar. Il y a un an, il a été chargé par le chef de l'ONU, Antonio Guterres, de jouer un rôle de médiateur dans la crise politique malgache. Au micro d'ONU Info, Abdoulaye Batili se félicite aujourd'hui du succès de cette médiation qui a permis à Madagascar de sortir de l'impasse et de tourner la page de l'instabilité politique. Madagascar a élu en décembre 2018 un nouveau président qui a pris ses fonctions en janvier de cette année. Les élections législatives sont prévues très bientôt, le 27 mai. Lors de notre entretien avec Abdoulaye Batili, nous lui avons demandé quel bilan il tirait de l'année écoulée.
Cette médiation que j'ai conduite en collaboration avec mes autres collègues de la communauté internationale a réussi globalement. Jusqu'ici, j'ai été désigné par le secrétaire général comme conseiller sur Madagascar. Et depuis le mois d'avril 2018, j'ai effectué dans ce cadre 5 visites successives à Madagascar, donc du mois de mai 2018 à janvier 2019. La médiation a réussi pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que la communauté internationale, pour une fois dans la longue crise de plusieurs décennies à Madagascar, a pu parler d'une même voix et avoir une même stratégie sur la crise malgache. L'Union africaine, représentée par son haut représentant, M. Ramtane Lamamra, la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, représentée par son envoyé spécial, l'ancien président du Mozambique, Joachim Chissano, mais également l'Union européenne, à travers ses représentants, mais également la francophonie, la Commission de l'Océan Indien, sans compter évidemment la communauté diplomatique sur place dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe international de contact sur Madagascar. Tout ce monde-là a pu travailler en harmonie, en synergie. J'étais de l'opinion que pour résoudre ce genre de crise, il faut qu'il y ait une unité de vue de la communauté internationale. Sinon, nous ajoutons une crise à la crise. Si chacun agite seulement son drapeau ou ses intérêts particuliers, il ne peut pas y avoir de réconciliation, il ne peut pas y avoir de succès d'une médiation. Donc, sur ce plan-là, je dois me féliciter du fait que l'Union africaine, qui est l'organisation régionale, a pleinement joué son rôle, la SADC a pleinement joué son rôle, et moi, j'avais comme mandat, en tant que conseiller spécial du secrétaire général, d'appuyer avec l'autorité des Nations Unies ce processus. C'est une des premières raisons du succès de cette médiation.
Pour revenir sur le partenariat avec l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment cette coopération a fonctionné?
Entre le président Joachim Chissano, le ministre Lamamra et moi-même, nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous sommes même des amis. Le président Chissano est notre grand frère à tous. Il y a un côté affectif aussi, on l'a connu depuis très longtemps, avant même qu'il n'exerce ses fonctions de président du Mozambique. Et Lamamra, personnellement, je connais aussi, j'ai travaillé avec lui à l'Union africaine et dans d'autres cadres. Donc il y a déjà cette ambiance affective qui peut contribuer. On se comprend et on a pris des engagements similaires dans d'autres circonstances. Alors donc ça aide énormément. Pour l'Union, même certains autres, les représentants de beaucoup d'ambassades sur place, mais également le directeur de l'action extérieure de l'Union européenne, M. Verbeek, également, c'est quelqu'un que personnellement j'ai connu dans d'autres circonstances. Quand j'étais représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale, l'Union européenne intervenait et nous avons pu nous croiser. Donc il y a déjà cette dimension-là qui est importante. Et ensuite, compte tenu de nos expériences respectives, nous avons estimé qu'il fallait nécessairement créer la synergie. Bien sûr, chacun a quelque chose que l'autre n'a pas, ou vice-versa. Donc, on se comprend souvent. On n'a pas besoin de faire des dessins pour savoir sur quel registre l'un et l'autre peut intervenir. Et ça, c'est un feeling. Ça, c'est des choses que l'expérience enseigne. Et ça nous a servi admirablement.
« Au-delà de la médiation de la communauté internationale, Abdoulaye Batili estime que les institutions et les acteurs malgaches ont joué un rôle déterminant pour sortir Madagascar de l'impasse politique.
Les acteurs malgaches eux-mêmes, à partir des conversations que nous avons eues avec eux, les discussions que nous avons eues avec eux, sur le plan individuel, collectif, multilatéral, il y a eu une prise de conscience, un sursaut, j'allais dire, de leur part. C'est ainsi que les institutions malgaches, pour une fois, pendant cette crise, ont pu jouer un rôle très positif qui ont permis à la communauté internationale, avec son message commun, de faire avancer les choses. Il s'agit en particulier de la Haute Cour constitutionnelle. La Haute Cour constitutionnelle qui, tout au long de la crise, chaque fois qu'elle était sollicitée, a dit le droit de manière neutre, impartiale. Donc, elle a pu asseoir son autorité, sa crédibilité. Il y a également, à côté de la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante, qui aussi, avec le soutien de la communauté internationale, parce qu'elle avait un financement conséquent, elle avait un appui politique, financier, matériel, elle a pu assurer son indépendance et sa neutralité face aux partis en compétition. Mais au-delà de cela, à Madagascar, dans le cadre de la Constitution, il est prévu une disposition selon laquelle, à la veille des élections, lorsque un candidat président en exercice se déclare à nouveau pour un nouveau mandat, eh bien, il doit démissionner 60 jours avant l'élection. Cette disposition a été respectée par le président en exercice d'alors, Eri Radjomampian. Ce qui est important, parce que la Madagascar a beaucoup souffert du non-respect de la Constitution, pratiquement pendant 30 ans, tous les régimes tombés sous le coup de coups d'État ou bien de manifestations de rue, donc de changements non constitutionnels de gouvernement. Alors donc ça c'est très important, cette attitude du président Radjomampian qui a quand même, sur ce plan-là, accru sa propre crédibilité et son respect du droit. Mais également, quand il a démissionné, selon la Constitution, c'est le président du Sénat qui devait assurer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Eh bien, le président du Sénat également, le président Rivo, qui, bien qu'étant chef du parti du président sortant, a joué pleinement son rôle en tant que président intérimaire, à équidistance des partis. Ça aussi, c'est une chose remarquable qu'il faut noter, qui a permis la stabilité des institutions. Et avant, il y a eu un nouveau gouvernement qui a été monté en mai, à la suite de l'intervention de la communauté internationale. Un consensus a été trouvé entre les forces politiques pour former un nouveau gouvernement de consensus. Ce gouvernement de consensus, composé de plusieurs partis, naturellement, c'était pas une garantie qu'il allait travailler de manière neutre dans l'intérêt du pays. Eh bien, à notre grande surprise, ça aussi, ce gouvernement a joué pleinement son rôle pour la continuité de l'État et il n'y a pas eu trop de disputes en son sein et jusqu'à l'élection présidentielle. Mais au-delà de ces institutions, il y a aussi la société civile, de jeunes, de femmes qui ont joué un rôle aussi très important dans ce processus-là, hein, pour amener interpeller les acteurs politiques à s'entendre dans l'intérêt du peuple malgache. Il y a certaines organisations religieuses aussi qui ont joué ce rôle. L'armée, pour une fois, est restée en dehors du processus. Et les chefs de l'armée ont chaque fois tiré sur la sonnette d'alarme pour interpeller les acteurs politiques à s'entendre. Ça aussi, c'est un élément tout à fait important pour l'histoire de Madagascar. Et d'autres acteurs éminents de l'époque, par exemple, un des principaux opposants qui allait être élu par la suite président de la République, le président Rajoelina, aussi a accepté beaucoup de concessions et c'est ce qui d'ailleurs a permis la formation du nouveau gouvernement. La communauté internationale a réussi à s'entendre de manière exceptionnelle, mais également les acteurs politiques malgaches aussi ont tenu compte de tout ce qui a été dit et ils ont, par un acte de sursaut, tourner cette page de l'instabilité politique à Madagascar. C'est ce qui nous a permis, en fin de compte, d'arriver au premier tour de l'élection présidentielle, puis au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et au moment où le nouveau président a été élu, le président Rajoelina, à son inauguration, tous les candidats, 36 candidats, ils étaient tous là. Et donc, c'était une nouvelle page dans l'histoire de Madagascar.
« Madagascar se prépare à des élections législatives le 27 mai pour renouveler les 151 membres de l'Assemblée nationale de l'île avec un appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement. Au moment où nous l'avons rencontré fin avril, Abdoulaye Batili estimait que les choses semblaient se dérouler normalement et qu'une consolidation du processus démocratique était en cours.
Un processus de consolidation du processus démocratique à Madagascar est en cours, ce qui est tout à l'honneur de ce pays. Et dans un pays qui a, pendant 3 décennies, connu beaucoup d'instabilité et de régression économique, sociale et culturelle. Et donc, c'est un honneur aujourd'hui d'avoir participé à cette médiation. Et c'est à la grande satisfaction de la communauté internationale, mais surtout du peuple malgache qui avait tellement besoin de cela. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance, ma gratitude et surtout mes félicitations à tous les acteurs malgaches, parce que sans leur volonté politique, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Pour l'avenir de Madagascar, le processus démocratique, la stabilité politique ne peut pas aller sans concertation permanente entre les acteurs, sans dialogue entre les acteurs, sans concession de part et d'autre dans l'intérêt national. Et je crois que c'est la principale leçon qu'on peut tirer de toutes les transitions démocratiques sur le continent africain aujourd'hui. Des démarches unilatérales ne font que développer des tensions dans les pays et créer les conditions de l'instabilité.
Quel est l'avenir de votre rôle après l'élection législative?
Nous, en tant que conseiller spécial du secrétaire général, c'était pour contribuer à résoudre cette crise. Une fois la crise terminée, les choses reprennent leur cours normal. Les Nations Unies ont une équipe pays sur place, avec une coordinatrice résidente, donc qui va mettre en place un dispositif de soutien dynamique et massif à Madagascar dans tous les domaines. Il faut que Madagascar puisse bénéficier des dividendes de la paix retrouvée, de la stabilité retrouvée, de la démocratie retrouvée. Et sous ce plan-là, on compte, après les élections législatives, mettre en place cette équipe qui va dialoguer avec les autorités malgaches pour voir dans quel secteur, selon quelle forme, quelle modalité, un soutien va leur être donné pour le moyen et le long terme. Un soutien stratégique global. Et nous, en tant que conseiller spécial, notre rôle ne va pas au-delà de cette action qui, maintenant, va être relayée par toutes les équipes techniques. Par exemple, la réconciliation nationale, c'est un dossier important. Ensuite, le fonds des opérations de paix va être sollicité pour des projets et programmes, parce que la Madagascar est quand même, après toutes ces années de crise, est une société qui a été déchirée par des conflits, non seulement des conflits politiques au niveau national, mais également sur le plan local, parce que l'absence d'État, ou en tout cas les déficits de la présence de l'État, s'est fait ressentir sur la vie quotidienne des gens. Et il y a des problèmes de sécurité interne. Il y a eu, depuis des années, par exemple, ces vols de zébus, ces vols de bétail, qui font des ravages dans les campagnes. Mais aussi, il y a le phénomène du banditisme qui opère dans certaines régions du pays, que ce soit le sud et même un peu partout. Mais également, une inégalité criarde de développement entre les régions. Les hauts plateaux, d'une part, considérés comme plus favorisés, encore que c'est une façon de parler, mais le sud où la pauvreté est scandaleuse, il faut faire quelque chose. Donc il y a un travail énorme. Et je crois que savoir que le nouveau président, et lui en tout cas, semble prendre à bras le corps les choses, parce qu'il veut aller vite. D'ailleurs, c'est TGV. Le TGV semble prendre déjà un certain nombre de mesures encourageantes de ce point de vue-là. Non seulement les construire des infrastructures dont Madagascar a criardement besoin. Il n'y a pas de route dans ce pays. Il manque de tout. Infrastructures routières, infrastructures médicales, scolaires, etc. Les infrastructures sociales de base qui manque clairement dans ce pays. Maintenant, la stabilité politique obtenue pourra permettre d'aller de l'avant pour remédier à cette situation catastrophique.
Concernant les élections législatives fin mai, quelle est votre évaluation de la préparation de ces élections?
Pour la préparation matérielle et financière, tout semble aller de manière satisfaisante jusqu'ici. D'après nos informations, il y a un petit gap pour le budget, mais la Commission électorale nationale indépendante, en concertation avec tous les partenaires et avec l'appui technique du PNUD qui pilote l'aspect, n'est-ce pas, technique et financier, tout semble se dérouler normalement jusqu'ici. Et maintenant, sur le plan politique, il y a des candidatures de différents partis, il y a des candidatures indépendantes, il y en a beaucoup. Tout cela, je crois que c'est un indicateur d'une certaine santé démocratique.
Voilà, fin d'escale avec Abdoulaye Batili, conseiller spécial du secrétaire général pour Madagascar, un magazine conçu, produit et présenté par Jérôme Bernard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et via les médias sociaux nos magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.